Et bien sûr, il s'inscrit sur la route des Graves, qui fait partie évidemment de l'identité viticole du lieu. Alors. Donc, le parc de Chavac alimentait le château d'eau, est situé en bord de Garonne. C'est un domaine qui a été aménagé au début du XXe siècle pour François Thévenot, un riche industriel. C'est le 19 avril 1915 que François Thévenot acquiert le domaine de Chavac. Dès 1916, l'architecte paysagiste parisien Charles Bouana réalise un plan du jardin d'agrément que met en œuvre l'architecte bordelais Henri Marmis. Autour du château, le jardin de type mixte s'étend sur plus de 5 hectares. Une allée droite sépare le jardin régulier en terrasse sur le fleuve. Du jardin paysager qui se développe sur les deux tiers de la façade, au-delà de l'entrée en angle côté village. Ce parc est composé de compositions statuaires ponctuant la promenade. Ces marbres blancs et ces bronzes en provenance d'Italie sont des copies de l'antiquité gréco-romaine et de la Renaissance italienne, ou des créations s'en inspirant. La majorité des marbres est signée d'Ernesto Gazzeri. Donc, autour de ce château d'eau, tout de suite est née l'idée qu'il devait y avoir des manifestations culturelles associées à cet édifice. C'est pourquoi, dès sa création, un certain nombre de manifestations ont déjà eu lieu, qui, je dirais, préfiguraient le programme qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, il y a notamment eu une sculpture sonore, composition numéro 20, réalisée par Didier Blanchard, sculpteur acousticien, et Georges Bloch, compositeur. Il y a eu une exposition aussi de 4 sculpteurs dans les Graves en 1995. Christophe Doucet, Joris Dickmeyer, Jean-Michel Lidon, Vanessa Nautelet. Donc Christophe Doucet qui est le papa de Maëlys, voilà, pour tout vous dire. Autour du château d'eau Le Corbusier en 1997 et à la galerie Mola, Vincent Montier, photographe. Mise en lumière du 3 juin, qu'on peut voir en image, du 3 juin au 3 août 2006, dans la cadre de la soirée Noctiluc 2006, organisée par l'association Renaissance des Cités d'Europe. Donc on voit qu'il y a déjà eu des préfigurations créatives, et on va expliquer en quoi ces préfigurations vont servir à la restauration du château, l'appuyer et la magnifier. Donc maintenant, on va se pencher sur l'édifice plus particulièrement. Donc là, ce sont deux photos de l'extérieur. Donc en fait, où on peut voir à la fois, on peut voir l'élégance du bâtiment avec sa forme en cigare qui rappelle peut-être un peu celle d'un phare ou d'un flacon. On peut voir aussi les attaques du temps sur ce bâtiment qui a cette année un siècle tout pile. Donc, et notamment les bétons qui sont abîmés, les ferraillages qui sont à nu. Donc à cette époque, les ferraillages étaient lisses, etc. Donc la rénovation va impliquer des savoir-faire très précis et notamment l'appui des architectes des bâtiments de France pour faire une rénovation stricte et historique du château d'eau. Donc là, une vue de la gloriette et des dessins de l'abbé. Donc là, c'est vraiment l'originalité du château, donc cette pièce panoramique qui permet d'admirer les alentours à 360 degrés. Donc là, on se rapproche du béton et on voit un petit peu les lésions du temps. On peut admirer aussi la finesse des menuiseries, etc., qui sont également à rénover. Donc là, des photos de l'intérieur de la gloriette. Voilà, des vues de l'escalier hélicoïdal. Donc là, il y a des reprises de béton à faire également. Et enfin, à droite, la cuve qui est percée. avec un escalier hélicoïdal qui était prévu à l'origine, mais qui n'a pas été réalisé. Donc on grimpe par une simple échelle sur la terrasse qui surplombe la Garonne. Et nous arrivons sur les dessins de l'édifice. Alors, j'en arrive à la fin de ma présentation qui a été un petit peu plus succincte que prévu. Donc avant de laisser la parole à Maëlys et Elsa, je vais revenir sur quelques points pour conclure. Donc notre idée, c'est de révéler ce patrimoine, de mettre en valeur ce patrimoine et de le révéler par la culture. Lui donner un nouvel usage, parce que l'usage du château d'eau est caduque. Après, l'idée, c'est de s'associer à une pensée créative comme un hommage à Le Corbusier. Et par là même, que ça devienne un outil créatif sous la forme d'une résidence d'artiste, mais originale. Au-delà de la rénovation stricte, il faut souligner que l'usage qui sera prévu dans le château d'eau sera complètement réversible. C'est une restauration qui est menée avec l'accompagnement de la fondation Le Corbusier, mais aussi avec le soutien de la DRAC, qui est bien évidemment partenaire quand il s'agit de ces enjeux. Notamment avec Michel Goutal, architecte en chef des monuments historiques. Donc, il y a 6 mois, quand on a consulté les femmes actuelles pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait imaginer comme résidence d'artiste dans ce lieu. On a été visiter le lieu ensemble et elles nous ont proposé un concept d'une résidence offline qui nous a immédiatement paru porteur pour le château d'eau Le Corbusier et de correspondre à son essence même. Donc, on a été très, très enthousiasmés par cette résidence d'artiste dont le projet commence à prendre forme aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Maëlys et Elsa. Merci.
Donc, je prends la parole pour continuer. Je pense qu'il serait bon qu'on se présente avant de passer à l'explication de la résidence. Donc, je suis Elsa Pragou, j'ai fait les Beaux-Arts à Bordeaux. Je mène un projet en fait d'une chambre d'hôte, bon, j'appelle plutôt Bed & Breakfast, mais qui soit à la fois une galerie d'art. Donc, c'est toute une pensée autour de comment présenter de l'art d'une manière un peu plus décomplexée et relax pour pouvoir prendre le temps de découvrir des œuvres dans un contexte qui soit un peu éloigné de la galerie traditionnelle, c'est-à-dire voilà, du White Cube et avec la distance que ça engendre. J'ai rencontré Maëlys Doucet il y a un petit peu plus d'un an et on est très vite on a des points communs très forts dans nos parcours. Donc du coup, on s'est très vite associés. On a monté Femmes Actuelles, qui est un duo qui pense l'art contemporain d'une manière féminine et décomplexée à l'heure des réseaux et de la communication excessive.
Voilà, donc là il y a le slide donc de la, on va dire, du projet finalement d'Elsa, hop, qui est House of Art. Donc c'est un espace qui va bientôt ouvrir, donc un lieu hybride entre Bed & Breakfast et galerie d'art. Pour ma part, moi j'ai 29 ans, j'ai fait du droit et de l'histoire de l'art. J'ai créé une application mobile de géolocalisation de lieux d'art. Ce qui m'intéresse, c'est de valoriser le maillage territorial, et ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller à la rencontre des artistes. Donc pour ça, j'ai créé une application mobile et le digital m'intéresse fondamentalement. Et ensemble, donc on essaie de porter un regard un petit peu, on a essayé de porter un regard finalement sur ce bâtiment suite à la restauration. Nous, on intervient finalement dans un second temps.
Oui, quand on a rencontré Jean et toute l'équipe des Glacières et qu'on a été invité à découvrir le château, du coup, on a une super image d'archives qu'on pourrait lancer. Qui est un microfilm où on découvre et on rentre dans le château d'eau et on monte ce fameux escalier hélicoïdal qui est assez impressionnant.
Ouais, donc c'est vraiment la première montée, quoi.
Donc ça c'est Jean qui prend des photos. je trouve cette image hyper poétique. Donc c'est au niveau de la Gloriette, voilà comment quand on s'est retrouvé là-bas pour le visiter. Et la suivante normalement, si tu peux le lancer et si on peut faire play. Je sais pas. Merci. Donc du coup, voilà, on a rencontré toute l'équipe qui avait ce patrimoine entre les mains. Le bâtiment est absolument fabuleux, donc quand on arrive, on est assez impressionné. Il est hyper particulier dans le sens où il y a cet espace au sommet qui est propice au repos, à prendre le temps. On sait que Le Corbusier avait dessiné des meubles aussi où on pouvait se relaxer. Il y avait des chaises longues, il y avait un bureau. Donc du coup, il y a tout de suite ça qui nous vient à l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a cet espace qui est pensé quand même pour réfléchir, pour regarder le paysage, plus que pour juste distribuer de l'eau pour le parc. Donc voilà, donc on a Jean et toute l'équipe qui est très qui est en demande d'avoir un projet qui puisse s'inscrire dans le bâtiment. Et puis il y a ce nom qui est une marque qui est très important, très puissant aussi.
Et donc on pense véritablement que Le Corbusier s'inscrit dans le 20e siècle et nous on a réellement envie d'inscrire cette résidence d'artiste dans le 21e. Et donc ensemble on essaie de penser quelque chose. Et finalement cette tour nous a fait penser à cette idée de résidence peut-être de déconnexion ou de cette envie de sortir un petit peu de notre sphère hyper connectée pour essayer de créer un espace qui serait peut-être un espace beaucoup plus hermétique et beaucoup plus en offline en fait.
Oui, il y avait le principe d'être perché et du coup aussi de la tour d'ivoire, de quelque chose où on prend de la hauteur et on se met un petit peu à l'écart pour penser. Donc cette tour d'ivoire, là on a un magnifique exemple de tour d'ivoire, je pense réalisée en Chine. Hein.
Ouais.
Voilà, donc c'est une vision un peu romantique, c'est une vision un petit peu kitsch même, presque comme première idée. Et on s'est dit, mais comment inscrire le principe de la tour d'ivoire dans notre époque, en 2017 ?
Et donc, nous, ce qui nous intéresse pour inscrire ce projet-là dans une démarche contemporaine, depuis une année, on fait beaucoup d'expositions d'art contemporain, on se balade à travers... on va vraiment, on est allé à la Biennale de Venise, à la Documenta ou dans les foires, et on se rend compte qu'il y a véritablement un intérêt des artistes contemporains à s'intéresser à la connexion, la déconnexion, et à faire des propositions esthétiques dans un monde post-digital. Et en ce sens...
Il y avait aussi la première intuition qu'avait amorcée Mathieu sur le cabanon où a fini sa vie Le Corbusier, qui est très intéressante dans le sens où il était isolé, il a pris la distance avec un monde plus connecté, et on s'est dit que peut-être ça pouvait être aussi mis en valeur dans le projet culturel du château d'eau Le Corbusier à Podensac. Il y avait aussi tout un phénomène lié quand on est mis à l'écart, quand on prend le temps de se mettre à l'écart et qu'on se met dans une forme d'isolement, on a tout de suite pensé aussi à une résidence qui s'appelle la Villa Fukuyama, donc au Japon, à Kyoto, qui est une résidence de l'Institut français où de nombreux artistes donc d'origine française ou francophone vont depuis plusieurs années. Et la particularité de ce bâtiment, c'est qu'il est tourné vers... les chambres des résidents sont tournées vers la falaise. Donc au lieu de regarder le paysage comme il serait plus traditionnel d'orienter un bâtiment, il regarde la montagne.
Donc nous, notre résidence d'artiste, on voudrait la présenter ainsi, peut-être dans quelque chose, pas de réellement monacal, mais comme il y a un espace de réflexion qui soit un peu détaché. Donc on a fait appel à des graphistes, donc les graphistes Kuntach qui sont bordelais, avec qui on a travaillé sur une proposition finalement peut-être un peu utopique. Donc ça, c'est un détail finalement de notre identité graphique. Ce qu'on veut dire, c'est que nous, on ne veut pas véritablement faire du offline. Notre objectif, c'est pas de créer une résidence qui est réellement hermétique, hein, comme on peut voir ici où des Américains s'enferment complètement pour pas avoir des pour que les ondes n'interfèrent pas. Mais on pense véritablement que finalement, les ondes qui sont autour de nous sont invisibles, mais peut-être qu'il y aurait une prise en considération si elles étaient visibles. Et il faut bien voir que, même moi, dans mon appartement à Saint-Michel, j'ai quand même 35 Wi-Fi qui traversent mon cerveau. Et je pense que ça fait partie peut-être de questions, finalement, de salubrité publique, peut-être par la suite, de s'interroger finalement sur les ondes, finalement, dans l'architecture. Aussi bien les architectes s'intéressent à la lumière, s'intéressent à la température. Peut-être que les ondes doivent faire aussi partie intégrante de nos réflexions dans l'architecture.
avec un. Donc là, c'est Better Call Saul pour tous les gens qui regardent des séries à la télévision. Donc on a ce fameux exemple de cette personne qui est complètement omnibilée par les ondes qui sont autour de lui et qui se protège avec une couverture de survie pour sortir de chez lui pour aller récupérer son journal. Non, on n'est pas des extrémistes à dire voilà, il ne faut pas d'ondes, il ne faut pas communiquer, il ne faut pas penser le monde avec les nouvelles technologies. Au contraire, on est. Usagères au quotidien, voire même, on peut dire, et assumer qu'on a une certaine dépendance à l'hyperconnectivité. Mais on pense quand même que même en étant conscient de nos usages, on peut quand même essayer de penser une forme de déconnexion.
Ouais, dans une société post-digitale. Donc voilà. Donc on n'est pas dans le online, dans l'offline, on est entre les deux. Et donc, du coup, on va faire un peu un point. On a choisi 4 artistes contemporains qui pensent un petit peu à l'offline. Donc ça, c'est un artiste américain qui s'imagine en 2025, deuxième mandat de Donald Trump. Les villes sont complètement immergées. La seule manière d'être connecté au monde, c'est finalement d'avoir un Wi-Fi à haute vitesse. Et pour s'alimenter, il est en train de mettre il fait pousser des lentilles dans ses toilettes. Donc ça, on est vraiment dans un espace, un micro-appartement, une sorte de petite architecture de survie. Donc ça, c'est un artiste qu'on en entend pas mal parler actuellement. Ensuite, ça, c'est une artiste néerlandaise qui, elle, pense à un droit au silence, un silence électromagnétique. Donc, c'est des tentes avec une toile de Faraday qui permet de se protéger, de se créer comme ça des refuges, une cabane hermétique.
Ça, c'est Sarah Van Sonbeek.
Ouais, voilà. Ça, c'est Mathias Allemann qu'on a vu récemment en Suisse.
On l'a vu à Liszt. Donc Liszt, c'est une foire d'art contemporain sur les artistes émergents. Et donc Mathias, c'est intéressant parce que lui, il pense à un tech brutalisme. Donc c'est-à-dire que c'est à la fois penser à la technologie, mais dans un rapport à la sculpture qui est brutal, voire on ouvre les ordinateurs, on n'a pas peur de dépasser le côté lisse d'un Macintosh flambant neuf. Avis à tous pour tous les futurs usagers de l'iPhone 10, hein, démontez-le, voilà. Cassez-le.
Il est un petit peu dans la mouvance des Fab Labs, donc tous ces ateliers qui sont en train d'émerger dans toutes les capitales européennes où on arrête d'avoir une fascination pour les choses qui sont lisses, belles, mais peut-être qu'on essaie d'accepter finalement l'erreur, le mal fait qu'on ouvre, on essaie de réparer. Et donc là, c'est un conglomérat finalement d'objets digitales dans un amas de ciment pour véritablement montrer que finalement, il y a autre chose qu'une esthétique belle et très représentative de notre société actuelle. Et le dernier artiste, la dernière artiste qu'on a pointé du doigt, donc c'est...
Adam Hervé.
Ouais, qui fait une donc c'est des burkas anti-drones. Des burkas anti-drones, c'est utilisé par les militaires. C'est une burka qui, je crois, fait 2 500 € sur Internet. Mais en fait, c'est cette idée de vraiment de pouvoir se protéger et d'avoir des zones comme ça qui sont un petit peu qui sont privées en fait, de pouvoir sortir, on va dire, du champ.
Oui, d'échapper au champ des radars en fait. Ouais. C'est une forme de protection par rapport à un état en guerre.
Ouais, tout simplement. Et donc, du coup, on a beaucoup, beaucoup d'artistes qui travaillent comme ça sur cette société un petit peu qui s'en vient. Voilà.
Oui, on voulait aussi vous parler d'une application qui est, on pense, intéressante d'aller voir et d'aller découvrir, qui s'appelle Architecture of Radio, qui est une application qui est gratuite.
C'est une application, je crois qu'elle est payante. Mais
non, elle est payante pour certains usages, ouais. Mais je crois qu'on peut quand même la télécharger pour découvrir en tout cas le paysage. Et ça permet en fait, grâce avec l'application et l'iPad ou le téléphone portable, de visualiser les champs magnétiques qui nous entourent. Et donc du coup, de donner une visibilité à tous ces... ces ondes qui sont invisibles et qui sont autour de nous.
Tous les routeurs apparaissent avec un bruit. Donc plus vous vous approchez vers un routeur, plus ça fait du bruit. Et du coup, ça devient complètement infernal. Et ça permet de matérialiser finalement un conglomérat d'ondes et c'est assez violent finalement hein. Lorsqu'on l'utilise, on se rend compte à quel point on est complètement entouré d'un champ électromagnétique très très dense.
Alors on avait une petite une petite activité qui tombe un peu à plat parce qu'en fait on aurait bien aimé vous faire sortir les téléphones et checker le nombre de Wi-Fi qui sont disponibles au H14, mais le H14 est en béton armé je pense, donc il y a très peu de Wi-Fi qui passent, donc l'expérience tombe un peu à plat, mais je pense que vous mettez dans n'importe quel lieu touristique, je sais pas, Place de la Comédie à côté de l'Apple Store, à mon avis on capte un nombre incalculable de Wi-Fi et c'est c'est aussi hyper intéressant de se rendre compte que ces Wi-Fi sont fermés et sont des réseaux qui sont du coup des identités propres et duquel on ne peut pas traverser. Donc on les subit, on les traverse, mais on n'est pas forcément usagers. Enfin, il y a une espèce de protection qui se met en place. Donc ça, c'était un peu un constat. Hein. C'était des références comme ça qui sont venues en se posant la question de faire une résidence dans le château d'eau, ok, faire une résidence à partir de cette tour d'ivoire, ok, d'accord, comment la remettre dans un contexte 2017, le offline. Donc du coup, tout ça, c'est des références qui nous sont venues à l'esprit.
Et donc, dernièrement, en 2015, il y a un collectif d'architectes qui a proposé donc, la RAM House à Genève, qui est finalement un espace où ils créent des zones autonomes de champs électromagnétiques où on peut se protéger par des rideaux avec des rideaux en toile de Faraday qui permet finalement d'avoir des zones qui sont plus ou moins opaques et intrusives et de pouvoir sélectionner qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui peut rentrer chez nous, qu'est-ce qui peut rentrer, qu'est-ce qui peut sortir. Donc ça, c'est un prototype qui nous intéresse beaucoup.
Oui, puisque plus que de voir une résidence complètement déconnectée, ce qui pourrait être intéressant, on le pense, c'est d'avoir des zones qui soient à la fois très connectées, puis des zones totalement déconnecté et puis peut-être même des milieux un peu hybrides ou peut-être qu'il y aurait des zones qui seraient à la fois connectées, à la fois déconnectées. Je ne sais pas, il faudrait voir en fonction de comment c'est possible de mettre ça en place.
Et donc, on a eu une sorte de... Par rapport à tout ça, il y a un nom qui a un petit peu ressurgi, Philippe Ram, qui s'occupe finalement, qui a vraiment des préoccupations autour de la température, des ondes et peut-être de tous ces fluides invisibles. Philippe Ram, cet architecte, serait susceptible finalement de partir sur ce projet parce qu'il y a vraiment une volonté de Jean de Jacinto de faire intervenir une personne emblématique comme ça dans le château d'eau, lors de l'inauguration. Donc on lui a proposé d'investir le château d'eau, à la fin de la rénovation. On va voir, on ne sait pas, c'est actuellement pour parler.
Oui, donc le château accueillerait à la fois une résidence d'artiste et à la fois une intervention d'un artiste majeur qui viendrait marquer de son sceau, en fait, la collaboration, Le Corbusier et peut-être...
C'est ça, c'est ça, pour l'inclure réellement dans une logique très, très 21e siècle. Donc, on pense qu'il y a aussi autant de configurations de ce château d'eau qu'il y aurait potentiellement d'architectes. Ça, c'est vraiment une configuration qu'on s'est amusé à inventer avec Countach, où il pourrait avoir, par exemple, à l'entrée, quelque chose qui soit... où il y a des sanitaires, où il y a une cuisine, un bar, une salle de réception. Dans les parties supérieures, Elsa ?
Oui, dans les parties supérieures, il y aurait exposition, une manière de présenter, peut-être de la musique, du performatif, et à la fois un système de circulation dans l'escalier. Je voulais regarder parce qu'il y avait d'autres choses dans le livret qu'on a édité qui étaient intéressantes.
Dans cet escalier, peut-être suspendre, on ne sait pas encore, mais là encore, c'est en fonction des artistes qui interviendront. Dans la partie gloriette, avec une vue, peut-être un espace de détente, comme une sorte de boudoir un peu romantique ou une bibliothèque. Dans la cuve, là où il y avait avant le château d'eau, on pensait à quelque chose qui soit complètement hermétique, véritablement à la lumière, aux ondes, pour créer un contraste, quelque chose d'hyper radical. Et au sommet, une terrasse belvédère avec une sorte de...
T'entends pas.
Ah, au sommet, une terrasse avec un belvédère et une vue panoramique.
Moi j'avais des petits rapports, franchir la porte en bois, plusieurs mètres sous le plafond, un escalier hélicoïdal, comme un coquillage passé par le filtre de l'étirement. On monte, aspiré par la fosse centrifuge, ascension progressive, marche après marche, encore au-dessus au niveau de la gloriette, ouverture 360 degrés de lumière entre le paysage de l'entre-deux-mers. Au-dessus de la gloriette, la cuve vide et hermétique du château d'eau. Et puis enfin, au sommet, une plateforme terrasse en plein air, dominée par un futur clocheton.
Donc on a édité un petit livret pour expliquer notre projet qu'on peut mettre à disposition en consultation. C'est ça. Donc nous, ça c'est nous, la Cité Radios cet été, parce que c'était pour finir sur une petite note sucrée.
Non, mais il fallait quand même un petit peu préciser que les artistes qui seront futurement accueillis dans la résidence du château d'eau sont des artistes qu'on veut penseur et on va dire, j'aime pas trop dire avant-garde, mais on va dire visionnaire sur des problématiques liées à la connexion, à des connexions numériques ou... Oui, et
puis,
offline.
Oui, puis surtout qui ont oui une implication, je veux dire des ou des chercheurs, enfin je veux dire quelque chose qui s'appuie sur des on va dire sur des recherches scientifiques à la base et voilà et d'avoir vraiment des personnes qui ont un regard transversal, pas seulement des personnes qui sortent d'école des beaux-arts ou d'architecture, mais voilà donc c'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place. Voilà.
Merci beaucoup pour cette présentation. Donc pour peut-être, on va faire un petit mot de la fin. Oui, c'était pour nous, c'était le programme que vous avez apporté de résidence d'artiste était très intéressant dans le sens où ce serait pas un lieu forcément dédié à la production, mais de profiter du côté offline déconnecté pour proposer plutôt une expérience qui peut mener à la créativité, mais pas forcément à la production. Donc ça, c'est le premier point.
La production, on peut pas. A priori, on peut pas produire dans ce bâtiment. Donc on est dans un bâtiment qui est plutôt propice à la réflexion.
Oui, à l'introspection, etc. Donc effectivement, on a eu presque conjointement l'idée que ce soit Philippe Ram qui puisse réaliser cet aménagement intérieur. Et il s'avère qu'il est très intéressé par le projet et vient visiter le château d'eau dimanche matin en notre compagnie. Donc voilà. Donc on espère qu'il sera séduit autant que nous par l'édifice. Donc après, donc vous nous reverrez sûrement et peut-être les présentations vont se professionnaliser, je dirais pour ma partie en tout cas. Et parce qu'on lance une grande campagne pour financer ce projet qui est très très ambitieux. Donc pour donner un ordre d'idée, on va chercher quand même 1 million d'euros. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui va bien sûr être cofinancé par l'État pour la partie historique, mais il reste une grande partie études, aménagement, etc. à aller chercher. Cette partie démarre très bien vu qu'on aurait d'ores et déjà un mécénat pour les travaux, c'est-à-dire un grand groupe qui se chargerait des travaux, ce qui reste à confirmer, mais bon, on voit que le projet suscite envie. Donc les prochaines fois que vous nous reverrez, ce sera pour faire part du décollage de cette fusée qu'est le château d'eau de Le Corbusier. Je vous remercie.
On peut peut-être inviter aussi pour la soirée au glaciaire.
Oui, tout à fait. Alors, j'oublie deux choses importantes. Alors, si vous êtes intéressé par le sujet, ben je le souhaite, vu que vous êtes resté jusqu'à la fin de la conférence, vous pouvez noter vos coordonnées et ainsi recevoir les newsletters du groupe des 5 associations culturelles. Donc, je vous fais passer.
Vous en chargez ?
Merci. Donc, vous pouvez également retrouver les femmes actuelles sur Facebook, sur Internet, etc. Le G5, c'est pareil. On a tous beaucoup d'actualités. Je pense qu'on tend tous à l'explosion culturelle. Ça nous intéresse. Enfin, c'est des sujets qui nous plaisent. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et peut-être, si vous voulez conclure, je vous laisse le soin.
Non, merci à tous d'être venus et de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi à Agora.